Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
La loi de la croissance explosive. Là, on va parler de l'addition, de la multiplication en leadership. On va parler de l'addition et de la multiplication en leadership. Premier grand principe, pour ajouter à votre organisation, ajouter à votre église, ajouter à votre société, pour ajouter, former des suiveurs, pour multiplier, former des leaders. Donc pour ajouter à votre organisation, à votre société, à votre église, toutes sortes de choses, là où vous avez un leadership, former des suiveurs, pour multiplier, former des leaders. Donc vous avez compris que les leaders qui se concentrent sur les suiveurs, c'est-à-dire, ils ajoutent. Les leaders qui se concentrent sur la formation des leaders, ils multiplient. Voilà, c'est pas compliqué, hein. C'est d'une simplicité extrême, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui nous le dise. Moi, je l'ai lu, ça m'a beaucoup béni, ça. Ça nous fait poser beaucoup de questions. Vous savez, il y a des gens qui peuvent nous aider dans la vie. C'est très simple. Si vous avez 10 personnes que vous formez, qui sont des suiveurs dans votre organisation, ça veut dire que vous avez ajouté 10 personnes. Par contre, si vous avez formé 10 leaders qui vont eux-mêmes former 10 suiveurs, vous avez ajouté combien ? 100 personnes. Donc vous avez multiplié. Et nous allons voir que les bons leaders savent se concentrer sur la formation des leaders. Et on va voir que ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va demander tout un processus aussi, qu'on ne peut pas faire au début de notre leadership d'ailleurs. Moi personnellement, ça fait 13 ans que je suis pasteur, je commence vraiment à former des gens. Mais ça prend du temps. Il y a vraiment des leaders potentiels qui sont là, certains qui ont démarré des églises, d'autres qui sont à droite, à gauche, dans le monde entier. Mais ça prend du temps, parce qu'au début, notre activité principale, c'est quoi ? C'est d'étendre notre influence au niveau leadership. Et ce qu'on fait au départ pour étendre notre influence, la première chose qu'on fait qui est normale, c'est finalement de former des suiveurs et non pas de former des leaders. Voilà. Et ça, c'est normal, parce qu'au début, tu ne peux pas te concentrer sur la formation des leaders. Donc, en fait, l'idée de la multiplication, c'est de faire grandir votre organisation par équipe. Alors ça, c'est un premier niveau pour développer votre organisation, développer votre église, développer votre société, etc., etc., votre association. Le plus haut niveau maintenant, que vous pouvez comprendre, c'est que vous formiez des leaders qui vont eux-mêmes former des leaders et qui après formeront encore des leaders, etc., etc., etc. Et ça devient une chaîne. Ça devient une chaîne. Ça, c'est un autre niveau encore, mais qui est basé sur le même principe de la multiplication. C'est-à-dire, vous formez des leaders qui eux-mêmes vont former des leaders, qui formeront encore des leaders, etc., etc., et qui, à la fin, formeront des suiveurs. Et là, vous multipliez, vous multipliez, vous multipliez. Je dois dire qu'ici, nous sommes dans une église qui dépend de ce genre d'organisation et qui m'inspire beaucoup, d'ailleurs, personnellement. C'est vrai que les églises labornent avec toutes les extensions et les extensions d'extensions. Vous voyez, quand vous parlez d'extension d'extension, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des leaders qui ont formé des leaders. C'est pas compliqué. Vous voyez le principe ici ? Et ça, c'était un principe de leadership. C'était une loi du leadership qui a été utilisée à propos de la borne. Ça a démarré avec une église, on a formé des leaders et on a fait des extensions. Mais après, ceux qui ont fait des extensions ont fait même des extensions. Je ne sais même pas s'il y a des extensions d'extensions d'extensions, je ne sais pas si ça existe encore. Ouais. Bon, vous voyez, donc leader qui forme. Vous voyez le processus ? C'est une application typique de cette loi ici. Vous voyez ? C'est absolument cette loi du leadership qui a été utilisée ici en leadership. Peut-être que Jacques Verneau ne savait pas cette loi, entre guillemets, il ne l'avait pas nommée, mais il l'a utilisée. Oui, des fois, on utilise des choses qu'on ne sait pas. Ce qui est bien, c'est bien de les mettre sur un papier, parfois. Ça nous permet de leur transmettre à certaines personnes. Vous voyez, parfois, c'est utile aussi. Les deux sont utiles. Alors, notez, deuxième grand principe, les leaders qui développent des leaders égale une croissance explosive. Les leaders qui développent des leaders égale une croissance explosive. Égale une croissance explosive, les leaders qui développent des leaders. L'apôtre Paul en était un exemple. L'apôtre Paul a formé une foison, c'est-à-dire un grand groupe de leaders. Un grand groupe de leaders. Quel leader Paul a-t-il formé? Donnez-moi quelques noms. Timothée, tout à fait typique. Tite aussi. Philémon, etc. Il a formé plein de leaders. Il y a toute une liste de gens qu'il a formés. Apollos, il l'a repéré. Apollos était très versé dans les Écritures, mais après, il l'a utilisé dans le leadership. De la bonne manière, bien sûr, quand je dis utiliser, de la bonne manière. Plein de gens, mais il y a toute une liste dans différents passages de la Bible où Paul a formé des leaders. Vous savez, Paul, il n'est pas mort très tard. Il n'est pas mort à 90 ans. Jean est mort, on pense, à peu près à l'âge de 95 ans, voire 100 ans. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a l'air de voir dans l'Écriture, en tout cas, et dans l'histoire de l'Église. Mais Paul est mort beaucoup plus jeune. Je crois que Paul est mort environ, il avait 65, 67 ans, pas plus. Paul est mort quand même beaucoup plus jeune que, il a été martyrisé, Paul, que Jean. Jean est mort vraiment dans sa vieillesse. Quand il reçoit l'Apocalypse et qu'il écrit 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, les historiens des livres du Nouveau Testament nous mettent à peu près dans l'an 95, à peu près, après Jésus, après la naissance de Jésus. Et Jean et Jésus étaient à peu près nés environ dans les mêmes années. Ils avaient à peu près le même âge. D'accord? Donc, on situe à peu près cela. Mais Paul a formé beaucoup de leaders, parce que Paul comprenait cela. Notez qu'un des plus grands paradoxes du leadership, si vous voulez toucher beaucoup de monde, un des plus grands paradoxes, c'est-à-dire quelque chose qui ne paraît pas logique, c'est ça un paradoxe. Un des grands paradoxes du leadership, c'est-à-dire quelque chose qui ne paraît pas logique, si vous voulez toucher beaucoup de monde, vous devez vous concentrer sur un petit noyau. Vous devez vous concentrer sur un petit noyau. C'est difficile à comprendre pour nous, parce qu'on se dit finalement, si je veux toucher beaucoup de monde, il faut que j'ai une grande foule devant moi. Non, si tu veux toucher beaucoup de monde en leadership, il va falloir que tu te concentres sur certaines personnes, un certain type de personnes, qui sont les leaders potentiels. 90% des leaders forment des suiveurs. 90% des leaders forment des suiveurs. C'est-à-dire, leur focus unique, c'est de voir des gens qui les suivent. Il n'y a que 10% des leaders qui se concentrent réellement sur la formation des leaders. Ça, c'est une grande leçon que nous devons apprendre en leadership, qui n'est pas facile. Parce qu'au début, on ne se concentre que sur les suiveurs, les gens qui nous suivent, les gens que nous dirigeons. Mais un leader qui voit loin, c'est un leader qui, au bout d'un moment, va changer son leadership. Il ne va plus se focaliser sur les gens, il va se focaliser sur les leaders potentiels qui eux-mêmes vont exercer vis-à-vis des gens un leadership. Vous voyez? Et ça, c'est souvent une erreur que nous faisons dans le leadership, c'est de nous concentrer uniquement à former des suiveurs. Donc c'est un paradoxe du leadership. Tu dois te concentrer sur un petit noyau. Quelqu'un a dit, si vous pensez très grand, vous devez agir et vous focaliser sur l'étroit essentiel. L'étroit, quelque chose qui est essentiel, mais qui est très étroit. C'est-à-dire sur leadership, bien évidemment, vous avez compris. Alors, ce n'est pas facile pour un leader de changer de direction. Quand on a été habitué à former des suiveurs, et qu'un jour on réalise que c'est bien, mais on ne s'est pas concentré sur le principal qui va multiplier en leadership, il va falloir qu'on change nos façons de voir les choses. Vous savez, nous les leaders, parfois, nous fonçons dans une direction, et quand ça marche, on pense que c'est la seule voie qui existe, la seule chose qu'on doit faire. Tu fonces dans une voie, tu vois que ça marche, en tout cas pour un temps, tu dis, j'ai toujours fait comme ça, On a toujours fait comme ça. Et quand tu dois changer, vous savez, changer un leader, c'est difficile. C'est pour ça qu'en tant que leader, nous devons être enseignables. Ça, c'est une qualité d'un leader. Une grande qualité d'un leader, c'est d'être enseignable, de rester enseignable. Où que tu sois dans ton leadership, tu dois rester enseignable. C'est-à-dire, tu ne sais pas tout. Il y a des choses que tu vas apprendre encore. Et des choses que tu devras changer dans ta façon de faire. Même si tu as du succès dans ton leadership. Si ton leadership a très bien marché, entre guillemets, que tu es très bien quelque part. Vous savez, il y a un moment dans le leadership où on a tellement bossé que quand ça commence à bien marcher, que vraiment on est bien, on commence à lever le pied sur l'accélérateur. Vous voyez ce que je veux dire ? En disant, bah, c'est bien, voilà. Il y a beaucoup de pasteurs qui tombent dans ce piège. Beaucoup de pasteurs qui tombent dans ce piège. Ils bossent dur, ils créent une église, l'église commence à maturer un peu, c'est bon, on a acheté notre bâtiment, le pasteur est bien, il a pu faire sa maison, il a une bonne bagnole, il a un bon salaire, il a des gens autour de lui qui sont bien, qui sont vraiment soumis à son autorité spirituelle, l'église va bien. Mais attention, c'est dire que l'église va bien, c'est une chose, mais ton église peut commencer à dormir après. J'ai vu des églises comme ça. Tu passes 5 ans, 10 ans, 15 ans après, et tu ne vois pas de changement. Tu vois à peu près toujours le même nombre de personnes. Les gens sont là, bon, ils sont là, ils aiment le Seigneur. C'est leur église, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils sont là. Ils ne sont pas prêts à changer d'église. Puis de toute façon, il n'y a pas de raison. Il y a une parole qui est pas mal, la louange, ça va. On est très bien organisé dans l'église, on s'est occupé de nos enfants ont grandi. Pourquoi changer d'église, vous voyez ? Mais on voit que l'église ne bouge plus, en quelque sorte. Elle devient statique. La loi du momentum, la loi du mouvement, vous voyez ? Et ça, c'est un piège chez beaucoup de leaders. C'est-à-dire, ils ont réussi à un certain niveau. Il y avait un prédicateur puissamment loin dans les années 90 particulièrement qui disait, on a l'impression qu'aux États-Unis, les gens n'ont qu'un objectif. Avoir une église où il y a 10 000 personnes et une fois qu'ils sont là, ben voilà, ils sont arrivés, ils ne bougent plus, l'évangélisation ne les intéresse plus, voilà, ils ont 10 000 personnes, c'est bon, c'est une immense église, c'est une super méga church, donc voilà, tout va très bien, ils ont plein d'argent, tout se passe très bien, mais ils en restent là. Vous voyez, parce que c'était un objectif qu'ils voulaient atteindre, et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à s'endormir, entre guillemets. Bon, tout va bien, rien ne va mal, mais il n'y a plus la fraîcheur. Et de vouloir se dire, mais d'accord, mais le jour où je vais mourir, je vais laisser qui ? Ils n'y pensent même pas. Ils n'y pensent même pas, parce que parfois, c'est vrai, ils ont 40 et quelques années, ou 50 et quelques années, ils ont déjà réussi à être dans ce domaine-là. Alors, pour changer de direction, ce n'est pas facile. C'est-à-dire de passer du leader qui forme des suiveurs au leader qui va former des leaders. Ah, ça va lui demander un changement de mentalité. La première chose, c'est qu'il apprenne à faire les choses de la bonne manière. Apprendre à faire les choses de la bonne manière en vue d'attirer des leaders ou des leaders potentiels dans votre organisation. Parce que c'est bien de faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire réussir quelque chose, des objectifs. Mais après, il va falloir apprendre à faire les choses de la bonne manière en vue d'attirer des leaders dans votre organisation. Parce que vous avez peut-être réussi, c'est très bien. Mais maintenant, vous n'avez pas de leader potentiel. Vous êtes l'homme qui détient tous les pouvoirs sur votre organisation. Ok, c'est bien. C'est comme un patron. Un patron qui se concentre sur sa réussite personnelle au travers de sa société. Bon, il va grimper, il va monter. Mais s'il n'a pas des directeurs fiables, dans tous les départements, des gens qui sont dans la vision de la société pour aller la faire grimper plus haut, s'il ne peut pas ouvrir des filiales parce qu'il n'a pas formé des leaders, il va limiter sa société. Sa société va bien marcher, mais il aurait pu ouvrir des succursales partout. Et il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas créé un leadership de leaders autour de lui. Vous voyez ? Deuxième chose, gérer les bonnes priorités. Gérer les bonnes priorités. Donc là, la bonne priorité, ça va être quoi ? Le mentoring, c'est-à-dire concentration sur les leaders. Je change ma priorité. Ma priorité, c'était uniquement de former des suiveurs. Maintenant, je vais mentorer. C'est le mentoring, ma priorité, des leaders. Donc, je change mon focus. Je continue à m'occuper des suiveurs, oui, mais moins, je m'occupe plus de former des leaders. Je me concentre plus sur former des leaders parce qu'eux-mêmes vont former mes suiveurs. Voilà, tout simplement. Donc, ça, tu changes. C'est l'idée de changer, là, de changer de direction. Ensuite, il faut chercher à combler notre destinée, non pas nous-mêmes. Chercher à combler notre destinée, non pas nous-mêmes. Parce que souvent, vous voyez, les leaders cherchent à réussir par rapport à leur vision. Mais ça, ce n'est pas ta destinée. Ta destinée n'est pas réussir ta vision seulement. C'est beaucoup plus que ça. c'est d'amener les autres à réussir dans leur vision. Donc former des leaders. Si seulement ton but dans la vie, c'est de réussir et de devenir quelqu'un, mais tu n'as rien compris au film. Rien compris. Bien sûr, tu dois passer par cette étape de réussir toi-même pour aider les autres à réussir. Parce que quelqu'un qui échoue ne peut pas aider les autres à réussir, qu'on soit bien d'accord. Vous voyez la différence? Donc, que tu sois comblé, c'est une chose, mais ça doit être juste une étape. En disant vraiment, je remercie le Seigneur parce que tout ce qu'il m'a montré, maintenant, c'est devenu réalité. Ça, c'est bien. Mais c'est une étape. C'est une étape de leadership. Tu ne dois pas rester là. Sinon, tu vas t'endormir et endormir les autres. Donc là, tu dois vraiment comprendre qu'il faut que tu remplisses ta destinée. Pour remplir ta destinée, ça va être d'investir chez les autres ce que toi, tu as appris dans la vie. Et de les aider à réussir leur destinée. Vous voyez, il faut que tu changes ton focus à ce moment-là. Sinon, tu vas rester à former que des suiveurs. Tu ne vas pas te concentrer sur former des leaders. Rappelez-vous, addition, multiplication. Nous en sommes là. Quatrième chose, c'est qu'il faut que tu rendes fort les leaders que tu formes. Donc, rendre forme les leaders que nous formons. Donc, rendre fort les leaders que nous formons. Parce que là aussi, quand quelqu'un a tout dirigé et tout créé de A jusqu'à Z, le plus difficile, par exemple, c'est quand vous avez un homme qui a 60, 65 ans, 70 ans, qui a commencé avec rien dans la vie et qui a réussi à faire quelque chose. Par exemple, une grosse société. Ces gens-là, pour lâcher des responsabilités, ils ont du mal. La plupart d'entre eux. Même chose pour un pasteur qui a souffert pendant des années et qui est parti de rien, qui n'avait aucune chance de réussir, et puis qui, 20, 30, 40 ans plus tard, vraiment a atteint certains sommets au niveau de ce que Dieu lui avait demandé pour créer une très bonne église. Cette personne-là, souvent, parce qu'elle a vécu des choses difficiles. Moi, j'en ai connu des pasteurs comme ça. Et c'est très facile de devenir comme ça quand tu n'as pas été formé ou que tu n'as pas eu de bon modèle devant toi. Vous voyez, quand vous avez eu un bon mentor, il vous a montré quoi faire et il vous a amené une succession. On va parler de la loi de la succession, ce sera la dernière loi. Mais souvent, le problème qu'il y a, c'est que quand tu n'as pas eu ces exemples-là et que tu as souffert, que tu as été combattu. Moi, je connais un frère comme ça, qui est devenu très riche, un prédicateur que je connais très bien. C'est quelqu'un qui était super pauvre et vraiment, Dieu l'a béni, mais d'une façon incroyable. Bon, il est pasteur d'une église, c'est un excellent enseignant. Il a vraiment une révélation sur les finances extraordinaire. Il est devenu millionnaire en dollars. Et cet homme, il m'a dit, tu ne peux pas savoir combien j'ai été combattu et jalousé. Et des fois, parce qu'on discute ensemble, on a créé une relation ensemble, et moi je suis sincère dans mes relations. Je ne suis pas du style, vous savez, à vouloir montrer certaines choses alors que je n'en pense pas moins. Si je pense quelque chose de quelqu'un, en général, soit je vais lui dire, ou soit je vais mettre une distance avec les relations, si j'ai des raisons de penser certaines choses. C'est comme ça que je suis. Ça veut dire que si mes relations sont fortes, elles sont sincères. Je n'ai pas de relation forte avec des gens s'il n'y a pas de sincérité derrière. Ça ne m'intéresse pas, parce que ce sont des relations hypocrites, des relations tronquées. Et ce frère, on sentait qu'il y avait des appréhensions. Puis des fois, il m'écrit, il me dit, au moins, je sens que ton amour est sincère envers moi. Mais oui, parce que j'ai rien à... Il n'y a pas de secret. Vous voyez ? Mais souvent, il y a des leaders comme ça qui sont montés à la force du poignet. Et souvent, ces leaders-là, je ne dis pas le cas de ce prédicateur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je ne me permettrai jamais de dire ça sur lui, mais je vois par exemple des gens, des vieux là, qui ont 65, 70 ans, ils ont bossé toute leur vie, et d'un seul coup, ce sont devenus des gens très riches, qui ont créé une belle société. Mais terrible pour donner des responsabilités. Même leur fils, le fils aîné souvent, il est considéré comme... Et d'un seul coup, le gars va se retrouver à la tête. Et le problème, c'est qu'il n'a pas eu l'habitude de gérer ça. Vous voyez ? Et c'est pareil pour certains pasteurs. Il y a certains pasteurs, ils se sont concentrés seulement pour former que des suiveurs. Et je vous le dis, au début, c'est normal. Et c'est normal pendant un certain nombre d'années. Parce que si tu veux aller trop vite pour former des leaders, tu vas te planter. Ça, c'est clair. Parce que tu vas choisir des gens, tu vas commencer à dire, oui, celui-ci, il est un tel, celui-ci est pasteur, celui-ci, etc., etc., etc. Et il faut faire attention, parce que tu as intérêt à vraiment avoir du discernement. Parce que d'abord, les gens, la Bible nous dit clairement d'éprouver les gens. Et éprouver les cœurs, ça demande des années. Ça demande des années. Moi, j'ai vu parfois des pasteurs vouloir démarrer beaucoup d'églises et ils mettaient n'importe qui à la tête de leurs églises entre guillemets. Alors au début, ils disaient, nous avons une église en Belgique, nous avons une église en Hollande, nous avons une église au Canada, nous avons une église... Et puis 2-3 ans plus tard, tu t'apercevais que l'église, le gars avait fait sécession avec l'église mère, classique. Ou alors, il a fait n'importe quoi de sa vie, il est tombé dans des trucs innommables et qu'il n'est même plus dans le ministère. Etc. C'est très classique ça. C'est très très classique, vous voyez. Donc, c'est normal qu'un leader, au départ, se concentre particulièrement sur les suiveurs. Mais il y a un moment où tu dois changer ton focus de leadership. Tu dois te concentrer sur peu de gens qui, eux, vont former d'autres leaders, etc. La chaîne que je vous ai expliquée. Parce que ça, c'est important, mais c'est difficile à faire au départ. Parce qu'on a tendance, surtout quand on a bossé dur, à vouloir tout contrôler. L'esprit de contrôle. Et il faut savoir lâcher du lest. Il y a des gens, ils veulent savoir tout ce qui se passe de A jusqu'à Z. Des pasteurs, ils veulent savoir tout ce qui se dit dans l'église, tout ce qu'un tel a dit, s'ils étaient absents, comment il a dirigé la louange, blablabla, quel message il a prêché. Et ils demandent à plusieurs personnes pour essayer de se faire une opinion, etc., etc. Mais dans le sens un petit peu de dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'il a dit qui serait un petit peu gênant pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on sent qu'il y a l'esprit de contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, faire trop confiance et être naïf, la naïveté, beaucoup de chrétiens sont naïfs. Vous savez que la plupart des chrétiens, nous perdons beaucoup d'argent parce que nous sommes très naïfs. Souvent, les chrétiens perdent beaucoup d'argent à cause de la naïveté. Il y a un beau message sur les finances aussi là-dessus, mais c'est un autre sujet. D'accord? Bon, donc, là encore, vous comprenez, il faut rendre fort les leaders. Mais là, il y a des risques aussi et parfois, on se plante lamentablement par rapport à ça. Numéro 3. Les bons leaders se dévouent, c'est-à-dire passent leur temps, le maximum de leur temps, aux activités. Les bons leaders passent leur temps, si vous préférez, comme vous voulez, aux activités et aux gens qui produisent une croissance explosive. Ça, donc, qui se dévouent aux activités et aux gens qui produisent une croissance explosive. Ça veut dire que tu vas te dévouer à ces personnes pour les former, ces futurs leaders ou ces leaders en herbe. Donc se dévouer aux gens, aux activités, aux gens qui produisent une croissance explosive. Et vous voyez, Paul, quand on regarde l'apôtre Paul, c'était un homme qui était rempli de qualités. Il avait beaucoup de qualités, l'apôtre Paul. Mais ce qui a fait le succès du ministère de Paul, c'est surtout la formation des gens, de ses leaders. Ça a été son plus grand succès. Son plus grand succès n'a pas été ses qualités. Les qualités, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être de bons prédicateurs, nous avons besoin d'être des gens instruits, des instruments dans les mains de Dieu. Mais il faut aussi que nous apprenions à former des leaders. Donc, ce que Paul a fait de mieux, c'était pas de prêcher simplement. Ce n'est pas de guérir les malades. Ce qu'il a fait de mieux, c'est de former des gens. Tite, Luc, Timothée, Apollos, Silas, Prisca, etc. Il y a plein de gens qui sont nommés dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, qu'il salue parce qu'il les a formés, il les a envoyés. Et ils ont formé d'autres personnes. Alors, quel type de méthode Paul a-t-il utilisé pour préparer ses leaders, pour les former? Quel type de méthode Paul a-t-il utilisé? Il a utilisé 4 méthodes, ou 4 stratégies, si vous préférez, pour prendre un mot plus chic, stratégie. D'abord, il a su, numéro 1, attirer et équiper les gens. Il attirait et il équipait les gens. Partout où Paul passait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là, il y avait des gens qui étaient attirés par son ministère, mais il les équipait, il investissait en eux. Et ça, c'est important. Un bon leader qui veut pouvoir trouver d'autres leaders qui vont créer une croissance explosive doit passer du temps à droite et à gauche, et quand il circule, il va repérer des personnes, il va investir, il va équiper des gens. Numéro 2, il trouvait et mentorait les leaders émergents. Il trouvait et mentorait les leaders émergents. Donc il faisait du mentoring avec eux. Mais d'abord, il les repérait. Donc partout où il passait, il attirait des gens. Il prêchait, il enseignait, etc. Et dedans, il y avait une pépinière dans laquelle il se trouvait les futurs leaders émergents. Vous savez, les leaders émergents, ils ne vont pas courir vers vous. Il y en a qui viennent vers vous, mais la plupart des gens qui viennent vers vous ne comprennent pas. Le mieux, c'est que vous ayez eu d'abord un impact dans leur vie quelque part, que vous les ayez aidés quelque part. Et là, ils vont venir vers vous ou vous-même, vous allez venir vers eux parce que vous percevez quelque chose en eux. Vous dites, tiens, celui-ci, il a quelque chose de particulier. Et souvent, ces gens-là, ils sont dans un état, je dirais, où ils ne peuvent pas être utilisés encore par Dieu. Mais tu les repères. Repérez les leaders émergents. Ne débauchez pas des leaders qui ont été formés par les autres. Ce n'est pas une bonne méthode, ça. Quand les gens commencent à débaucher des leaders, vous savez, quand vous formez des gens, les gens viennent, il y a des pasteurs. Je connais comme ça un homme qui n'est pas pasteur d'ailleurs, qui s'appelle pasteur mais qui n'est pas pasteur. Moi je suis franc avec ces histoires de titres parce que un jour j'ai rencontré un gars dans un hôtel, un chrétien au Burundi, et on l'appelait pasteur. Et puis je lui ai dit, mais tiens, tu es pasteur de quelle église? Et il m'a regardé, il était un peu gêné, il m'a dit, j'en ai pas encore d'église. Tu n'es pas pasteur dans ces cas-là. Bon, et là, je vais vous raconter ce qu'un homme fait, et d'ailleurs, il échoue complètement dans son leadership. C'est un homme qui, un jour, était dans une grosse église au Burundi, et c'est un businessman, un gars qui a pas mal de moyens. Et il était fâché contre le pasteur. Donc, il est parti un jour. Bon, il y a des gens qui l'ont suivi. Il n'a pas fait de division telle quelle, mais il y a des gens qui l'ont suivi. Il n'a pas fait des histoires ouvertes au pasteur, mais il n'était pas d'accord avec lui pour différentes raisons. Mais cet homme-là n'est pas pasteur, il n'a pas d'onction pastorale. Il se fait appeler pasteur, il a même fait des études de théologie, mais il a un problème. Comme il n'a pas d'onction pastorale, mais il a eu des sous, donc quand il a eu des sous, il a loué un bel endroit et il a commencé une église. Le problème, c'est qu'il s'est aperçu qu'il avait du mal à rassembler. Donc il a commencé à appeler des gens pour qu'il soit pasteur de son église. Imaginez-vous le truc. Et ça fait plus de 10 ans, 10, 12 ans qu'il est sur la route, et il a toujours échoué. Son église avait grossi 200, 300 personnes, et là il se retrouve à 50 ces derniers temps. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher dans d'autres églises des ressources. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui les a formés, ces gens-là. Mais comme il proposait quelque chose, tu vas diriger la louange, et tous les mois, je vais te donner de l'argent. Quelque chose. Et vous savez, par exemple, les gens qui dirigent la louange, c'est un peu leur problème souvent, parce qu'ils sont souvent volontaires dans les églises. Et diriger la louange demande un sacrifice assez important. Maintenant, quand une église est assez grosse, c'est bien de mettre ces gens-là dans le staff. En même temps, vous les mettez à faire autre chose. Parce que comme ça, ça les amène à être à l'aise. Quand ils sont toujours volontaires, ceux qui dirigent la louange, c'est toujours difficile. Parce que, bon, ça va quelques années, c'est normal, on fonctionne avec des volontaires, mais il y a un moment où tu dois vraiment les attacher. Et puis c'est normal qu'ils touchent quelque chose au bout d'un certain temps, mais qu'ils ne dirigent pas seulement la louange. Qu'il y ait d'autres choses que vous leur donnez à faire, comme des, je ne sais pas moi, l'administration, s'ils sont doués pour l'administration, s'ils sont doués dans d'autres domaines, et bien vous leur donnez d'autres choses à faire. Si vous voulez monter une école de musique, et bien vous les utilisez comme ça, etc. Vous voyez, toutes sortes de choses. Donc ça, c'est bien de le faire. C'est bien de pouvoir le faire. Mais quand vous allez tout le temps puiser chez les autres, alors que c'est des leaders que vous n'avez pas formés, vous prenez beaucoup de risques. D'abord, ce n'est pas une bonne chose à faire. Je vous dis, cette personne qui s'appelle pasteur, c'est vraiment un brave frère. Il est très gentil, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas compris ce qu'est le royaume de Dieu. Le problème, vous savez, des fois, vous rencontrez des gens qui sont gentils, qui sont braves, qui sont sincères, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas l'intelligence du royaume de Dieu. Et quand vous n'avez pas l'intelligence du royaume de Dieu, en particulier pour les ministères, vous pouvez faire certaines choses, les gens vont peut-être être attirés par votre argent, par votre éloquence, entre guillemets, mais s'il n'y a pas l'onction pastorale, il n'y aura pas de fruit. Il n'y aura pas de fruit, parce qu'il n'y a pas de secret. Ce qui donne l'onction dans l'église, c'est l'onction qu'il y a sur le pasteur qui se déverse sur les gens. Il n'y a pas d'autre secret. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tous ceux qui fonctionnent sous l'autorité pastorale bénéficient de l'onction du pasteur. Quand ils commencent à se rebeller sur cette autorité pastorale, c'est là où ils ne bénéficient plus et qu'ils ne reçoivent plus. Et souvent, qu'ils s'écartent, malheureusement. On a vu des gens comme ça diriger la louange, j'insiste là-dessus, parce que c'est classique. Le gars est là, tu l'amènes, petit à petit tu le formes, il commence à monter, je dévie, c'est pas grave, je fais une parenthèse, mais ça va parler à quelqu'un, peu importe. Et il commence à monter, il est sur l'estrade, tout le monde commence à dire, waouh, c'est super, etc. D'un seul coup, il marche dans l'onction, il commence à amener le peuple de Dieu, l'onction est de plus en plus forte, et puis le pasteur est là, il prie pour les gens, il y a plein de choses qui commencent à se passer dans l'église, et le gars qui dirige la louange, il pense une chose, que l'onction, ça vient de lui. Parce que vous laissez un gars qui est la moitié du temps en public, la moitié du temps des réunions, il est devant. Et le problème, c'est que là-dedans, il y a une tentation. La tentation, c'est l'esprit d'indépendance. Il ne comprend pas que s'il arrive à de tels résultats, ses dons sont rehaussés, c'est parce que l'onction coule du pasteur. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le royaume de Dieu. Ils ne comprennent pas l'onction. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens. Ils font des trucs et c'est pour ça qu'on a autant de gaffe dans les églises. Parce que soit les gens n'ont pas l'intelligence du royaume, ou soit les gens ont un cœur qui n'est pas pour le royaume. Ils n'ont pas le cœur du serviteur, vous voyez ? Et quand les gens comprennent que tout découle de l'onction du pasteur, et qu'ils se soumettent à cette onction, c'est là où on peut aller dans des hauteurs incroyables. Au moment où il y a un caillou dans la machine, ça veut dire quelqu'un qui commence à faire des histoires, et il a une mentalité qui va à l'encontre du pasteur, il commence à bloquer l'onction dans sa vie, et son service commence à baisser. Ce jour-là, s'il commence à se rebeller, qui part. J'en ai vu plus d'un faire ça. Le gars qui dirige la louange, utilisé par Dieu d'une façon incroyable, et le jour où il se rebelle contre le pasteur, qui quitte l'église, il continue à diriger la louange quelque part, rien du tout, il n'y a plus rien sur lui. Et le gars n'a pas compris. Et il se retrouve comme s'il était tout nu d'un seul coup, alors qu'il était revêtu. Vous voyez ? Donc c'est très très important. C'est un principe qui est fondamental. Mais c'était une parenthèse que je ferme maintenant. Ensuite, donc trouver et mentorer les leaders émergents. On en a parlé de ça, non ? Oui, c'est ça, oui. Donc la pépinière, donc, vous les trouvez, vous les formez. Et ils vont aider. Et bien sûr aussi, créer de nouvelles organisations. Alors, entre guillemets, nouvelles organisations. Peut-être de nouveaux départements, peut-être de nouvelles églises, mais qui dépendent de l'église mère. Donc créer de nouvelles organisations, dans le sens où je vais les indiquer, d'accord ? Numéro 4, s'engager dans la formation et le développement des leaders. S'engager dans la formation des leaders, ça c'est important. Donc vouloir vraiment investir dans les futurs leaders potentiels. Donc ça c'est la stratégie pour se dévouer aux futurs leaders. Donc il va falloir que tu passes du temps avec tes leaders, tes futurs leaders potentiels. Quatrième grand principe. On était numéro 4, petit 4 du grand 3, maintenant on est au quatrième grand principe. Quatrième grand principe, les bons leaders reconnaissent les qualités requises des futurs leaders qu'ils forment. Les bons leaders reconnaissent les qualités requises des futurs leaders qu'ils forment. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6, je vais lire rapidement, parce que la Bible nous donne des caractéristiques des futurs leaders. 2 Timothée 2, 1 à 6. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Ce que tu as entendu de moi, regardez bien, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. » 2 Timothée 2, 1 à 6. Donc Paul dit, ce que toi, Timothée, tu as entendu de moi, tu vas toi-même former les autres avec ça. Vous voyez, le leader qui a formé un leader qui forme les autres. Donc capable d'enseigner, bon soldat. Il n'est pas de soldat, verset 4, en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Et l'athlète, c'est être le premier à recueillir le fruit. Voilà, donc, ici, il va donner des qualités. Des qualités, 4 caractéristiques, 4 qualités d'un bon leader potentiel. Numéro 1, un enseignant. Parce que si vous transmettez quelque chose et que cette personne n'est pas capable de la transmettre aux autres, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut que ce soit un enseignant. 4 qualités de leader potentiel. Un enseignant. Donc vous donnez des choses, il faut que ces gens-là soient capables d'implanter ce que vous avez implanté en eux chez les autres. De les transmettre, de les enseigner. Numéro 2, un soldat. Un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui est courageux et qui est soumis. Il est prêt à souffrir. Engagé, courageux, soumis. Engagé, courageux et soumis. C'est ça un bon soldat. Il nous faut ces gens-là dans les futurs leaders. Quelqu'un qui n'est pas engagé, qui est engagé chez toi, qui est engagé ailleurs. Comme ça, j'entendais une personne, je reviens sur les groupes de louanges, parce que c'est souvent un problème qu'on a très souvent, sauf si celui qui dirige la louange en même temps exerce le pastorat. Ça, c'est plus facile. Mais quand c'est vraiment un dirigeant de louange, directement, ces gens-là sont toujours en train de faire des concerts, des machins, des bidules, des trucs. Et la priorité, si tu diriges la louange ou que tu es engagé dans un groupe de louange dans une église, c'est de servir d'abord ton église. Et si ton pasteur te donne l'autorisation, pas que tu lui donnes l'information. Je déteste quand quelqu'un vient me voir, « Pasteur, je voulais vous informer que je ne serai pas là tel parce que je suis engagé ailleurs, alors que tu lui as donné des responsabilités. » Ça montre un manque de loyauté et de fidélité au ministère. Normalement, si la personne, tu as donné des responsabilités dans l'église locale, elle doit être engagée numéro un pour ce que tu lui as donné de faire. Et elle vient te voir en te disant, pasteur, est-ce que tu peux me permettre de... Et tu lui donnes l'autorisation ou pas. Et vous savez que c'est difficile d'obtenir ça. Aujourd'hui, c'est difficile parce que les gens disent, bon, c'est pas grave. Ok, très bien, il te dit comme ça. Et puis le jour où tu comptes sur lui, il n'est pas là. Parce qu'il pense qu'il est indispensable. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous tiennent en otage ou qui essayent de nous tenir en otage. Moi, j'ai appris à ne plus me mettre dans une position où je suis tenu en otage par quelqu'un à qui j'ai délégué une responsabilité dans un département. Faites attention à ça, parce que quand vous êtes leader, n'essayez pas de tenir en otage votre pasteur, parce qu'il vous a donné des responsabilités. Ne profitez pas en disant, s'il n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, ou je fais ça à son insu, et le pasteur se retrouve alors qu'il comptait sur vous. Il se retrouve avec un trou. Méfiez-vous, parce que les pasteurs qui savent répondre à ces situations-là, ils sauront très bien répondre aux situations. Et tôt ou tard, tu te retrouveras sur une chaise à ne plus rien faire, parce que Dieu amènera quelqu'un d'autre. Fais gaffe. C'est celui qui a des oreilles pour entendre. Numéro 3, un athlète. Un athlète, c'est quelqu'un qui a de l'intégrité, qui joue selon les règles et qui a de la discipline. Intégrité et discipline. Il y a beaucoup de candidats à servir, mais il y a très peu de gens qui veulent faire ce qu'on leur dit de faire. Quand ton leader, ton pasteur te dit « tu fais comme ça les choses », fais-les comme ça. Ne va pas lui dire « oui, j'ai fait la chose » alors que tu l'as fait avec ton idée. Il y a les gens qui ont de la tête dure avec ça. Si ton pasteur t'a dit « tu dois faire ça comme ça » ou ton boss qui t'a dit « tu dois faire ça comme ça et comme ça », tu le fais comme il t'a dit de le faire. Tu fais selon les règles. Il y a trop de gens à qui on donne des responsabilités qui vous font des coups gigantesques derrière le dos. Non. L'intégrité, c'est quelque chose qui est d'une grande valeur pour un leader potentiel. C'est ton caractère qui va être travaillé. Très important. Donc tu fais selon les règles et tu es discipliné. La discipline parmi les chrétiens, c'est grave. Nous devons apprendre aux gens la valeur d'être à l'heure, par exemple. Tu es à l'heure, c'est important. Tu es leader, tu es à l'heure. Tu dois être un exemple. Moi, je connais des leaders, mais c'est grave. À chaque fois, ils arrivent une demi-heure, une heure en retard. Des leaders. Ils font attendre tout le monde. Et à chaque fois, c'est avec un sourire. Je m'excuse. Oui, mais nous, on a paumé une heure à cause de toi. Vous savez, les gens qui paument du temps comme ça, avec un leader qui les fait tourner en rond pendant des heures, ils ne suivront pas. Le jour où il y aura un leader plus fort qu'eux, ils foutent le camp. Donc quand tu es un leader potentiel, apprends à te discipliner. Ça va faire du bien à ton caractère, mon frère, ma sœur. Et je te garantis, le jour où Dieu va te donner de la promotion, tu seras déjà stable dans certaines choses. Indispensable pour les qualités d'un leader. Un leader qui est indiscipliné, c'est une catastrophe. Ça peut être l'heure, ça peut être sur tout un tas d'autres choses. Le gars, il ne tient pas ses rendez-vous. Il y a des gens, c'est des catastrophes. Tu ne pourras jamais réussir. La discipline n'est pas quelque chose de charnel. Oui, mais moi, je vis avec le Saint-Esprit. Oui, d'accord, tu vis avec l'Esprit. Mais Dieu aussi est un Dieu d'ordre. Tu l'as oublié. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On trouve beaucoup de problèmes avec ça. Beaucoup de problèmes. Ensuite, un fermier. C'est ce que Paul dit dans ce passage. Un fermier. C'est numéro 4. Quatrième qualité d'un leader potentiel, un fermier. Le fermier, c'est quelqu'un qui a de l'honneur et qui aime le travail bien fait. Un fermier, quelqu'un qui a de l'honneur, pour le bien fait. Quelqu'un qui bosse dur. S'il faut se lever tôt, il va se lever aux aurores. S'il faut se coucher tard, il se couchera très tard. Il n'y a pas de problème. Donc, les leaders potentiels, on les repère et on cherche des qualités. Si vous étudiez 1 Timothée 3, vous verrez principalement, Paul parle des leaders, Paul parle donc des évêques, des futurs évêques. Évêque, en fait, c'est le pasteur, c'est ça, ça veut dire la même chose. Un évêque, littéralement, dans le grec, ça veut dire quelqu'un qui veille sur, pas un policier, pas un surveillant d'école. Ça a été traduit par, ça serait bien traduit par surveillant, mais je préfère dire quelqu'un qui veille sur quelque chose, c'est-à-dire sur un troupeau. Donc c'est le berger qui veille sur un troupeau, bien évidemment. Et il parle aussi au diacre. Et à chaque fois dans Timothée, les qualités requises, c'est quoi ? Faire des miracles ? Guérir les malades ? Non, c'est les qualités de caractère. Les qualités de caractère. Sois pas coléreux, qui n'ait pas l'amour du gain, etc., etc. Toutes sortes de choses comme ça. Des qualités de caractère. Parce que le futur leader, d'abord, tu vas chercher ses qualités de caractère. Oui, il doit avoir des dons, parce que s'il n'a aucun don, tu ne feras pas grand-chose avec lui. Lui, oui, il doit avoir des compétences. Oui, il doit avoir de l'habilité. Mais ça, c'est les qualités qui se développent. Par contre, s'il n'a pas le caractère qui est là, sérieusement déjà bien formé en lui, tu auras des problèmes. Parce que peut-être qu'il sera un super prédicateur, mais comme les gens vont commencer à le féliciter, alors que toi, tu l'auras mis en position, il va passer à la station-service, il va gonfler comme un gros ballon, et un jour, il va éclater en public. Eh oui, et qualité de caractère. C'est comme ça qu'on repère les futurs leaders, les leaders potentiels. Alors, j'aurai encore pas mal de choses à vous dire sur cette loi-là, mais j'avoue que le temps passe, et on va être obligé de passer à côté d'un certain nombre de choses, mais il faut savoir que dans le leadership, souvent, ces leaders qui ne veulent pas former les autres ont un certain nombre de carences. Par exemple, hein, rapidement, ce serait le cinquième point, c'est les différences entre les leaders qui forment des suiveurs et les leaders qui forment des leaders. Différence entre leaders qui forment des suiveurs et leaders qui forment les leaders. La différence majeure. On va en voir sept. Entre ceux qui forment que des suiveurs et ceux qui forment des leaders. Alors, quelles sont les différences entre le leader qui forme des suiveurs et le leader qui forme des leaders ? Ben, c'est simple. Le premier, alors, vous pouvez mettre des colonnes, comme ça, ça sera plus facile. Le leader qui forme que des suiveurs, vous mettez une colonne. Et le leader qui forme des leaders, deuxième colonne. Et je vais vous donner quelques mots, qui vont être des mots clés, pour comprendre. Donc, il y a sept différences majeures entre ces deux types de leaders. Donc, colonne 1, c'est seulement les leaders qui forment que des suiveurs. Colonne 2, c'est les leaders qui veulent former des leaders. OK ? Alors, dans la colonne 1, en fait, ceux qui forment que des suiveurs, c'est parce qu'ils veulent devenir indispensables. Le leader veut devenir indispensable. C'est le one-man show. Pas de délégation. Ce qu'il veut, c'est être indispensable. Celui qui forme des leaders, lui, il veut des successeurs. Vous voyez la différence ? Le premier qui forme des suiveurs, lui, il veut rester indispensable. Il veut que ce soit lui qui contrôle tout. Celui qui forme des leaders, lui, au contraire, il veut une succession. Il a la vision sur la succession. Deuxième différence. Celui qui forme des suiveurs, en général, il se focalise sur la faiblesse des gens. Première colonne. Deuxième ligne. Celui qui forme des suiveurs, il se focalise sur quoi ? Sur la faiblesse des gens. C'est typique, ça. Celui qui forme des leaders, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il se focalise sur les points forts. Les points forts des futurs leaders. Donc, lui, il se focalise sur les points forts des futurs leaders. Vous voyez la différence de mentalité. Alors, troisième différence notoire entre les deux. Ceux qui cherchent à former seulement des suiveurs, ils se focalisent sur les 20% du bas. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur la masse qui ne produit pas ou qui est très improductive. 20% du bas. Par contre, celui qui forme des leaders, il se focalise sur les 20% du haut, c'est-à-dire les futurs leaders potentiels. Les 20% du haut, futurs leaders potentiels. Quatrième grande différence entre les uns et les autres. Ou l'un et l'autre. Ceux qui rassemblent des suiveurs, ils traitent les gens en masse. Celui qui forme des leaders, il traite les gens individuellement. C'est-à-dire, il se focalise particulièrement sur ses futurs leaders. Mais il s'occupe des uns après les autres. Individuellement. Donc, traite les gens en masse pour celui qui forme des suiveurs. Et traite les gens individuellement. C'est-à-dire, il se focalise sur les futurs leaders, mais il s'occupe d'eux personnellement. Il est mentor, il les traite individuellement. Cinquième grande différence, on en a jusqu'à sept et après on fait une pause. Ceux qui rassemblent des suiveurs dépensent leur temps. Ceux qui rassemblent des suiveurs dépensent leur temps. Ceux qui forment des leaders investissent leur temps. Ceux qui rassemblent des suiveurs dépensent leur temps. Ceux qui forment des leaders investissent leur temps. Parce qu'ils savent que ça va produire. Tu investis ton temps chez les leaders et tu sais que ces leaders-là vont produire et vont former des suiveurs. C'est de l'investissement. Ce n'est pas quelque chose que tu vois grandir tout de suite. C'est plus facile de former des suiveurs et tu les vois grandir rapidement, etc., etc. Le leader, lui, ça va être beaucoup plus long à former. Donc tu vas investir chez lui, en vue que ça produise chez les autres. Ensuite, sixième caractéristique et différence, donc, ceux qui rassemblent les suiveurs demandent peu d'engagement. Peu d'engagement de la part des suiveurs. Le leader demande peu d'engagement. Par contre, celui qui forme des leaders, il demande un grand engagement de la part des futurs leaders. Peu d'engagement de la part des suiveurs, quand tu formes que des suiveurs. Quand tu formes des leaders, tu vas demander beaucoup d'engagement de la part de ces gens que tu es en train de former. Tu leur dis, je vais investir en vous, mais je veux vous engager à fond. Je vais vous montrer ce qu'est le leadership, je vais vous déléguer du leadership, mais là, les gars, vous n'êtes plus dans une cour de récréation. Vous n'êtes plus là en train de dire, un jour je suis d'accord, le lendemain je suis contre. Tu t'engages à fond. Donc il y a une exigence. Ensuite, numéro 7, septième différence, ceux qui rassemblent des suiveurs ont un impact sur la génération actuelle. Ceux qui rassemblent des suiveurs ont un impact sur la génération actuelle. Ceux qui forment des leaders ont un impact sur les générations futures. Donc impact sur génération actuelle pour ceux qui forment des suiveurs et impact sur les générations futures pour ceux qui forment des leaders.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.